Radio Kapi.
Oh, Kapi.
À la présentation, Belinda Bosuma, voici le sommaire. Plus de 14 milliards de dollars, c'est le projet de loi des finances exercice 2023. Il a doublé en deux ans avec un taux d'accroissement de 32,7% comparé au budget 2022 en RDC. Ce projet a été présenté hier à l'Assemblée nationale par le Premier ministre. S'en est suivi un débat général. Les membres du Conseil de sécurité réitèrent leur ferme condamnation de tous les groupes armés nationaux et étrangers opérant dans l'est de la RDC et appellent à intensifier les efforts pour désamorcer les tensions et s'abstenir des déclarations incendiaires. Ceci est contenu dans une déclaration de presse publiée hier. Et puis, l'invité de ce matin, Jeannot Canon Larose, bourgmestre de la commune de Kimbansé, qui est ici à Kinshasa, y dit avoir intensifié la lutte contre le banditisme urbain, ce depuis le meurtre d'un policier par des Koulouna le mois dernier. Il évoque aussi la situation des dernières pluies dans sa commune. Madame, Messieurs, bonjour. Début hier vendredi à l'Assemblée nationale du débat général sur le projet de loi des finances pour l'exercice 2023, le Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé a présenté hier après-midi l'économie du budget 2023 évaluée en recettes et en dépenses à plus de 14 milliards de dollars, soit un taux d'accroissement de 32,7% par rapport au budget 2022. Dans sa présentation, le Premier ministre a félicité le président de la République, le gouvernement et le Parlement d'avoir doubler le budget de 7 milliards en 14 milliards en seulement deux ans, mais il s'est dit tout de même conscient du défi énorme qui reste à relever. Jean-Michel Samalou Kondé est au micro de Michel Kifindangoy.
Le projet de loi de finances pour l'exercice 2023 est élaboré suivant les instructions de son Excellence Monsieur le Président de la République. Il était question que le budget soit significativement axé sur l'accroissement des dépenses d'investissement dans les secteurs sociaux de base, notamment la santé, l'éducation et le développement rural, ainsi que dans le secteur des infrastructures d'intégration nationale, avec pour finalité l'amélioration sensible des conditions de vie de la population. En outre, ces instructions portaient aussi sur les efforts à fournir pour la réduction du train de vie des institutions et la nécessité de poursuivre sans relâche les efforts pour l'élargissement de l'espace budgétaire à travers une mobilisation accrue des recettes publiques et la rationalisation des dépenses publiques. Il tient également compte des principales orientations soutenues et contenues dans ma lettre d'orientation budgétaire, en s'inscrivant notamment dans la poursuite de la mise en œuvre du programme d'action du gouvernement, adossé au plan national stratégique de développement, tout en assurant de la poursuite du programme de développement à la base des 145 territoires.
Et le président de la Commission socio-culturelle de l'Assemblée nationale, Léon Mondolé, de féliciter le gouvernement d'avoir déposé pour la première fois un budget à caractère social, dit-il. La majorité des députés nationaux salue l'accroissement des recettes de l'État estimées à plus de 14 milliards de dollars, une première dans l'histoire de la RDC, alors que certains députés apprécient la réduction du budget alloué au fonctionnement des institutions. D'autres plaident pour l'allocation d'un budget conséquent aux secteurs de production comme l'agriculture, pêche et élevage. Michel Kifindangoy.
C'est jusqu'au-delà des 21h que les députés se sont succédés au perchoir de l'Assemblée nationale pour débattre sur le budget. L'accroissement budgétaire est salué tant par la majorité que par l'opposition parlementaire. Geneviève Inagosi.
De 10 milliards, on est passé à 14 milliards. Il y a certes un accroissement, mais cet accroissement ne doit pas nous distraire. La valeur d'un budget se mesure plutôt par la qualité de ses dépenses et non par rapport à sa hauteur.
Les députés Maïcha saluent la réduction du budget alloué aux institutions politiques.
L'institution président de la République n'a que 1,95%. Le total de toutes les institutions centrales atteint moins de 6% du budget.
Pour Léon Mondolé, c'est pour la première fois que le gouvernement a présenté un budget à caractère social.
Depuis que je suis dans ce Parlement, c'est la première fois d'être devant un budget qui a une configuration vraiment sociale. Vous voyez les rubriques telles que la santé. Nous allons évoluer pour envoisiner les 10%. L'éducation prend pratiquement aux alentours des 18%. Vraiment, c'est une première.
Après débat, le Premier ministre a sollicité 48 heures pour rencontrer les préoccupations des députés.
Entre-temps, le chef de l'État congolais a bouclé hier sa mission à Mbujima et au Kasaï-Oriental. Avant de quitter la ville, Félix-Antoine Tshisekedi a tenu un conseil de sécurité élargi aux gouverneurs des quatre provinces du Grand Kasaï. Il a également rencontré différents représentants de quelques couches de la population avant de visiter la station de pompage d'eau de la régie des eaux à Bakwakabanga et les travaux de construction et réhabilitation de l'hôpital général de référence de la Mouya en cours de construction avec le financement du Fonds des promotions de l'industrie FPI. Reportage de Esther Ndalafina.
Le président de la République a commencé sa journée par la tenue d'un conseil de sécurité provincial élargi au gouverneur de l'espace Grand Kasaï, à l'exception de celui de la province du Kasaï. Chaque gouverneur a présenté au président de la République la situation globale de sa province en présence du vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, Daniel Asselou. Après ce conseil de sécurité, le chef de l'État s'est adressé au même moment à quelques représentants des différentes couches de la population. C'est notamment les chefs traditionnels, les chefs de confessions religieuses, les ministres provinciaux, les membres de la société civile, les jeunes ainsi que les opérateurs économiques. Le chef de l'État a expliqué brièvement la mise en œuvre du programme de développement local de 145 territoires. Félix-Antoine Tshisekedi a demandé aux chefs traditionnels d'être vigilants et d'identifier les personnes étrangères qui arrivent dans leur milieu. Cela permet de prévenir le conflit et les troubles comme celles enregistrées à Kwamout dans la province de Maïndombe. Avant de prendre son vol pour Kinshasa, Félix Tshisekedi a visité la station de pompage d'eau de la régie des eaux de Bakwakabanga ainsi que les travaux de construction et de modernisation de l'hôpital général de la Mouya exécuté avec le financement du Fonds de promotion de l'industrie. Esther Ndalafina, Mbujimayi, Radio Okapi.
Je vous l'ai dit dans le titre, les membres du Conseil de sécurité ont réitéré leur inquiétude face à la résurgence du M23 et à l'augmentation des activités des groupes armés dans l'est de la RDC, propos contenus dans une déclaration de presse publiée hier après la réunion le mercredi 26 octobre des membres du Conseil de sécurité sur la situation dans la région des Grands Lacs, réunion autour de l'envoyé spécial du secrétaire général de l'ONU pour les Grands Lacs, Wang Xia. Pour les participants à cette réunion, la résurgence du M23 et l'augmentation des activités des groupes armés dans l'Est menacent d'inverser les progrès de l'instauration de la confiance dans la région des Grands Lacs, d'aggraver la sécurité et la stabilité dans la région et exacerbant la situation humanitaire actuelle. Ils ont réitéré leur ferme condamnation de tous les groupes armés nationaux et étrangers opérant dans le pays, appelant également à intensifier les efforts pour désamorcer les tensions et à s'abstenir des déclarations incendiaires. Ils ont salué par ailleurs les efforts politiques et diplomatiques déployés par les chefs d'État de la communauté de l'Afrique de l'Est et le président de l'Angola pour établir la confiance, résoudre les différends par le dialogue et trouver une paix et une sécurité durable et ainsi continuer à utiliser les organisations et mécanismes sous-régionaux existants. Les membres du Conseil de sécurité ont reconnu les mesures prises pour opérationnaliser la force régionale et le déploiement des forces du Burundi et de l'Ouganda et ont souligné l'importance de la protection des civils et de la coordination ainsi que du partage d'informations avec la MONUSCO. Entre-temps, sur le terrain des affrontements au Nord Kivu, hier après-midi, des affrontements se sont concentrés plus dans les collines, notamment vers Matebe et Mutabo, axe Busanza, tandis que sur l'axe principal Goma-Rutshuru, les deux forces conservent leur position acquise jeudi soir ou vendredi matin, rapportent nos sources dans la région. Les rebelles du M23 maintiennent une barrière à Kako, obligeant les voyageurs à utiliser les longs détours sur les axes Tongo et Ruindi, en passant par Kichanga, Masisi, Sake pour atteindre Goma. Les FARDC maintiennent, elles, le contrôle de Rubare jusqu'à retour au centre pour empêcher toute avancée des rebelles du M23. Plus de détails avec Innocent Fadili.
D'après nos sources dans la région, les combats se sont poursuivis dans les profondeurs et collines sur les axes Busanza et Gisigari. L'un des voyageurs que nous avons joint ce vendredi affirme avoir quitté Rutshuru jeudi soir pour arriver à Goma ce vendredi dans la matinée. Selon ce voyageur, leurs convois ont été refoulés par les rebelles hier soir vers Rutshuru centre après un contrôle d'identité. Ces derniers ont dû contourner par un long parcours pour ressortir vers Bambo, Kichanga, Masisi afin de rejoindre Goma ce vendredi. Rappelons que les rebelles du M23 2023 occuperait toujours Kitagoma et Karambi et obligerait la population civile de rester claustrée dans leurs maisons. Les rebelles auraient aussi pris le contrôle des Kabaya, Bikenke, Rugari Centre jusqu'à Muharo, alors que les FRDC sont à Kibumba, rapportent nos sources. L'armée régulière contrôle également l'axe Kalengera-Tongo. Entre-temps, une relative accalmie s'observe toujours à Rutshuru Centre et Kiwanja sous le contrôle des FRDC, bien que certains habitants préfèrent déplacer leurs familles vers les axes plus ou moins sécures.
En Ituri, pendant ce temps, les leaders du groupe armé CODECO respectent leur engagement de cessation unilatérale des hostilités, engagement pris en juin dernier à Pandroma, dans le territoire de Djougou. Malgré les exactions de certains miliciens incontrôlés contre la population, il s'observe une accalmie dans cette entité et la cohésion sociale entre les communautés locales qui se fréquentent notamment dans les différents marchés. C'est le constat fait jeudi au cours de la réunion d'évaluation des avancées du forum intracommunautaire Lendou. Les participants ont déploré cependant le retard pour la concrétisation du programme de désarmement, démobilisation et réinsertion communautaire DDRCS. Christian Gabou, l'un des participants, explique l'importance de cette rencontre dans le processus de paix en Ituri. Il a été joint par Isaac Remoyope.
En termes des avancées, ce qui a marché, on a constaté aussi la calmie dans la zone, à territoire de Djougou, sauf les cas imprévus. Il y a aussi la cohabitation pacifique, la cohésion sociale s'observe et le retour de la population déplacée dans certains villages est en train d'être observé aussi. Et les activités commerciales, éducation, sociaux de base en général, et fonctionnelles. Et aussi, il y a eu des recommandations par rapport à ce qui n'a pas marché, tels que les retards du programme de désarmement et de démobilisation et relèvement communautaire et stabilisation. Les retards que connaît ce programme a été aussi soulevé comme un danger, comme un défi à corriger. On a aussi recommandé au gouvernement provincial d'installer rapidement la peine de PDDRCS de Djougou.
À propos de la crise dans l'Est de la RDC, le président national du mouvement lumumbiste progressiste et candidat président à la présidentielle de 2023 en RDC a présenté son plan de sortie de cette crise. Franck Diongo articule son plan sur 4 volets, notamment politique, judiciaire, diplomatique et sécuritaire. Il a fait lors d'une conférence de presse tenue hier au siège du MLP à Kasavubu, ici à Kinshasa. D'après lui, cette crise qui est à la fois géopolitique, géostratégique et surtout une guerre de la concrétisation de la balkanisation de la RDC nécessite une mobilisation tous azimuts de la population congolaise en lui livrant la vraie information afin qu'elle se dresse pour barrer la route à cette balkanisation. De ce fait, Franck Diongo pense que le gouvernement devrait d'une part solliciter et obtenir l'engagement des États-Unis sur le plan diplomatique et d'autre part réhabiliter, refonder, restructurer et nettoyer l'armée congolaise. Franck Diongo l'a dit au micro de Jacques-Yves Molima.
Sur le plan diplomatique, il n'y a qu'une seule solution. À l'État congolais de solliciter et obtenir l'implication directe et sincère des États-Unis d'Amérique. La loi Lehi, qui est l'obstacle de l'implication militaire américaine, cette loi interdit à l'État américain de collaborer militairement avec un pays dont les militaires sont condamnés pour violation des droits de l'homme et autres atrocités. Aussi longtemps que ces généraux, qui sont moins de 10 à ce jour, sont dans leur poste de commandement, nous n'aurons jamais l'aide militaire américaine directement. Sur le plan militaire, la solution militaire est uniquement et seulement l'armée congolaise. Mais cette armée congolaise exige l'introduction des facteurs correctifs. Il faudra enlever les infiltrés. Je vous ai cité les cas. Bosco Ntaganda, général de l'armée congolaise, mais arrivé à la CPI, il a dit qu'il était rwandais. Les généraux qui sont dans cette catégorie-là, il faut les enlever. Les autres, qui sont même des Congolais d'origine, mais qui sont dans les détournements, qui démobilisent l'armée, il faut les nettoyer. Dans cette manière-là, on aura une armée reconditionnée.
Franck Diongo a également demandé sur le plan judiciaire que l'État congolais obtienne une résolution du Conseil de sécurité de l'ONU pour la création d'un tribunal pénal international sur le Congo, tribunal qui doit juger les crimes commis depuis 1994 jusqu'à ce jour. Parlons culture à présent. 8 artistes africains ont rivalisé de talent le 28 octobre à l'Institut français de Kinshasa. C'était lors du concours Mon Premier Montreux, une initiative de Grégoire Furer qui consiste à découvrir des pépites de l'humour en Afrique afin de les lancer sur les scènes internationales. Deux humoristes de la République démocratique du Congo figurent parmi les 8 artistes retenus. Il s'agit de Cécile Djunga et Jean-Claude Mouaka, nous a fait savoir Grégoire Furer lors d'une conférence de presse tenue le même jour à Pullman Hotel. Grégoire Furer explique au micro de Kelly Yoka.
L'objectif, c'est de trouver les pépites de l'humour, effectivement, en Afrique, mais dans une perspective de leur permettre, en tout cas, de venir en Europe jouer dans les festivals qu'on produit, Montreux notamment, mais aussi Cannes, Lille, Montréal, Belgique. Donc l'idée, c'est vraiment, on cherche des artistes qui sont africains, évidemment, qui ont une particularité africaine très forte, mais qui ont aussi quelque chose d'universel. Alors le casting, il a déjà démarré, puisqu'on en est à la finale aujourd'hui, mais on a fait un appel à talent, on a reçu des milliers de demandes, on a auditionné 400 jeunes dans 9 pays africains francophones, et puis on en a sélectionné 20 pour les amener à Abidjan, et de ces 20 artistes ont tous été ensuite mis sur un site internet pour demander au public de voter, et nous avons sélectionné les 8 artistes qui avaient le plus